T'as-tu informé? 102.1. Toute la semaine. Partout. La Beauce, Portneuf, Bellechasse, Saint-Og, la Côte-de-Beaupré, Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1, maintenant 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication. On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Émission On en jase de ton lundi 15 juin. Vous pouvez nous écouter via le blvd.fm. C'est notre web radio. C'est aussi les meilleurs moments qui s'y retrouvent. Deuxième tentative de rejoindre l'avocate et criminaliste spécialisée Vicky Powell. Maître Powell, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour, je vous entends bien cette fois-ci.
Ah, super! Il doit y avoir une mauvaise manipulation qui avait été faite de mon côté. Je m'en excuse.
Absolument aucun problème. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Powell, beaucoup d'encre a coulé depuis vendredi 22h, alors que le chef du SPVM, Fadi Daguerre, a annoncé la suspension de deux policiers et la mise en place à des tâches administratives de 14 autres policiers. Comment vous voyez la situation à l'heure actuelle à Montréal-Nord?
Est-ce que c'est quelque chose qui me surprend? J'ai eu des discussions avec des collègues ce matin, puis pas nécessairement parce que c'est des événements qui nous avaient été relatés par plusieurs clients. Ce n'est pas nécessairement des événements qui sont isolés ou qui sont nouveaux. C'est juste qu'on n'avait pas nécessairement la confirmation, si je peux dire ça comme ça, que ça avait bel et bien lieu. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y ait une sortie publique et médiatique comme ça, ça vient confirmer un peu ce qu'on savait déjà un petit peu de ce qui se passait. Puis c'est pas juste Montréal-Nord. Je pense que c'est Montréal-Nord qui est sorti maintenant, mais c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres villes, d'autres municipalités dans lesquelles on était conscient que ça se passait, puis qu'il y avait rien qui se faisait. Là. Mm-hmm.
Je vous fais entendre la porte-parole du regroupement des intervenants d'origine haïtienne ce matin en conférence de presse, et par la suite, on en discute.
Alors, pour le Rio, ces révélations sont graves, révoltantes et inacceptables. Elles viennent confirmer ce que les citoyens, les familles, des jeunes, des intervenants et des organismes communautaires de Montréal-Nord dénoncent depuis des années. L'existence de comportements discriminatoires et de pratiques qui ont contribué à pénaliser de manière injustifiable un grand nombre de résidents, notamment ceux et celles des communautés noires et arabes.
Elle est très catégorique avec le fait que ce racisme-là existe depuis des années au sein du corps de police. Êtes-vous d'accord avec elle? Moi, j'ai tendance à le croire, là, à la lumière des derniers événements.
100%, je suis tout à fait d'accord. Puis d'ailleurs, là, ça avait été mis en lumière en 2022 devant la Cour supérieure. Là, le juge Hierjo, il y avait des experts qui étaient venus témoigner devant lui dans le dossier Luamba. Puis il y avait des statistiques quand même inquiétantes qui avaient été mises en lumière. Puis malgré ces statistiques-là, il n'y a rien qui avait été mis en place. Mm-hmm. Ça, on parle de 2022, mais c'est quand même des statistiques qui ont été comptabilisées sur une grosse période de temps, là. Donc oui, effectivement, on le mentionne, puis même si on le plaide à la cour, là, parce que ça nous arrive de le plaider, le profilage racial, c'est extrêmement difficile à prouver.
Oui, exactement, parce que le policier va arrêter une personne, peut l'arrêter sous motif de prévention également. Je reviens à 2022, ce que vous nous racontez. Est-ce qu'il y avait des recommandations qui avaient été émises à la lumière des statistiques, et si oui, quelles étaient-elles?
En fait, plutôt, il y a un article du Code de sécurité routière qui a complètement été inopérant. Donc, c'est un article du Code de sécurité routière qui permettait aux policiers là, d'interpeller, on pourrait dire, pour à peu près n'importe quoi, les conducteurs automobiles. Là. C'est le fameux article 636. Puis, ce qui était plaidé dans ce dossier-là, c'est que les conducteurs noirs ou arabes ou autochtones étaient surreprésentés dans les interpellations. J'ai les statistiques, là, les hommes noirs, c'est 4,68 fois plus de chances. Hommes autochtones, 3,27 et hommes arabes, 2,27. Donc, c'est quand même des statistiques qui sont inquiétantes là, quand on regarde ça. Mais même, tu sais, on va dire ça, vous et moi, là, traverser la rue, c'est pas problématique. Moi, je me suis jamais fait interpeller, mais il y a des gens, à chaque fois qu'ils traversent la rue, se font interpeller par les policiers. Là. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus, puis de la sensibilisation, mais non, il n'y avait pas eu de recommandation. Il aurait peut-être dit.
Puis c'est ça, par rapport aux recommandations, parce que, tu sais, là, vous donnez l'exemple de cet article de loi-là, 636, donc on est sur la route dans ce cas-ci. Puis une chose avec laquelle, un point en fait sur lequel je me questionne, c'est à savoir, est-ce que les policiers et policières ont des formations par rapport au fait que la conduite automobile, il y a quand même quelque chose de culturel là-dedans aussi. Donc, des gens qui arrivent ici au pays ne vont pas conduire nécessairement de la même façon que nous. Il y a des gens qui conduisent beaucoup moins vite. Il y a quand même une période d'adaptation à ce moment-là. Est-ce que ça fait partie des formations qu'on reçoit au niveau des policiers et des policières, justement, pour être en mesure de s'adapter peut-être avant de faire des arrestations qui peuvent tomber dans le profilage par la suite?
J'ai vraiment pas cette réponse-là, mais c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui serait pertinent éventuellement. Là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire auprès des corps de police. Puis je pense aussi que c'est bien d'inviter les communautés aussi à peut-être se présenter pour être policier, faire les études pour être policier, parce que c'est sûr qu'ils ont besoin de représentation aussi dans la police, peut-être même juste pour ramener un lien de confiance ou d'appartenance avec le service de police, mais je ne peux pas témoigner si oui ou non il y a des formations par rapport à ça. Mais c'est sûr que les statistiques, pour moi, là, je trouve que c'est alarmant.
Maintenant, comment faire pour retrouver le calme? Parce que là, évidemment, les communautés sont en colère. On le voit présentement. Là, il y a un point de presse qui vient tout juste de se terminer avec la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. Il y a manifestation ce soir. Est-ce que vous attendez quelque chose d'explosif où on va être capable de garder un certain calme et qu'on va être capable d'avoir des manifestations de façon pacifique?
C'est sûr que je pense qu'on est dans un mode solution. Donc, s'il y a des gens qui participent à la manifestation ce soir puis qui entendent l'entrevue, c'est sûr que je les inviterais à faire une manifestation calme. Là, je comprends que les gens peuvent être en colère, puis c'est absolument normal de l'être. C'est aberrant là, ce qu'on a pu voir sortir dans les journaux dans ces derniers jours-là. Mais le fait d'avoir une manifestation violente ne va pas nécessairement faire changer les choses, ou plutôt ne va pas faire du tout changer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une discussion et amener des solutions aussi. Mais je pense que la mairesse est ouverte. Puis ça, c'est bien là, qu'elle soit ouverte à entendre la communauté puis à mettre un plan d'action. Je pense que c'est la première chose à faire. Donc oui, c'est correct de manifester, mais c'est sûr que au point où on en est, une manifestation violente ne va pas nécessairement faire changer la situation.
En effet, croyez-vous que justement l'ouverture d'esprit démontrée par Fadi Daguerre, le chef de la police de Montréal et également la mairesse de Montréal, fait en sorte qu'on a plus de chances que ça se déroule de façon pacifique? Moi, je vois ces deux intervenants-là comme très clés et à l'heure actuelle, je salue leur comportement.
Mais également, je trouve ça bien en fait qu'il y ait une ouverture, puis même qu'il demande au public de rester calme. Là, je pense que la mairesse vendredi avait fait un point de presse immédiatement quand la nouvelle était sortie pour inviter les gens à rester calme puis à avoir des discussions de façon pacifique. Là. C'est sûr que ça fait plusieurs fois que je pense que le chef de police est ouvert à des discussions puis qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui bouge. Espérons que cette fois-ci, ça va pouvoir faire changer les choses, mais c'était arrivé. Je pense que l'été dernier, là, il y avait un jeune homme qui avait été... qui avait perdu la vie là, lors d'une intervention policière justement dans le coin de Montréal-Nord. Puis il y avait eu ouverture à des dialogues, mais encore une fois, il n'y a rien qui s'était passé. Donc, je peux comprendre encore une fois que les gens, ça peut les épuiser de toujours vouloir sans qu'il y ait rien qui avance. Là. Donc, espérons que cette fois-ci, on puisse vraiment avoir un dialogue et que suite à ce dialogue-là, il y a vraiment des mesures qui soient prises en place, parce que c'est sûr que ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Il y a une colère puis une tension qui se crée. Puis ça va juste rendre la relation entre le citoyen puis les policiers plus difficile.
Pour rappel, on parle avec Vicky Powell, avocate et criminaliste. On parle de cette situation à Montréal-Nord où deux policiers ont été suspendus et 14 autres réaffectés à des tâches administratives en raison de gestes de racisme qui auraient été posés contre la communauté à Montréal-Nord. Madame Powell, parlant de gestes, je vous nomme ministre de la Sécurité intérieure aujourd'hui. Est-ce qu'on en accélérer les caméras corporelles pour les policiers? Je pense qu'on est rendu là.
C'est sûr que moi, je suis avocate de la défense, là, donc pour ma part, les caméras corporelles, c'est quelque chose qui est essentiel. Là, on le voit déjà dans d'autres provinces. C'est sûr qu'il y a des pour, il y a des contre, là, notamment les coûts, mais c'est sûr que les caméras corporelles permettraient d'assurer une transparence complète. On aurait le début de l'intervention jusqu'à la fin de l'intervention. Si le citoyen a un comportement qui est inapproprié, à ce moment-là, on va être capable de le capter.
Exactement.
Si c'est le policier qui a un comportement inapproprié, ben on va être capable de le capter également. Mm-hmm. Puis dans les deux cas, il y a des sanctions ou d'autres décisions qui pourront être prises. Donc, je trouve que des deux côtés, ça pourrait être une bonne solution. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais on le voit aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose. » Peut-être. Mais je pense que quand même, c'est nécessaire à Montréal pour minimalement là, venir apaiser les tensions actuelles.
Madame Vicky Power, l'avocate et criminaliste, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission On en jase ce midi. Au plaisir de se reparler dans un contexte plus positif.
Ben, je l'espère. Bonne journée.
Bonne journée. Merci beaucoup, Vicky Powell, avocate et criminaliste. Moi, je sais que ma pensée va peut-être aller à l'encontre de la majorité de nos auditeurs, mais des fois, c'est important d'être courageux dans notre prise de position. Mm-hmm. Moi, honnêtement, je suis révolté par ce qui s'est passé à Montréal-Nord. Le racisme n'a pas sa place dans notre société. Puis quoi que certaines personnes en pensent en disant « Ouais, mais ils sont acharnés avec les policiers. Ouais, mais... » Non, non, non. Là, tu sais, quand on collectionne des rastas, quand il y a 14 autres policiers qui sont au courant puis qui ferment les yeux, puis il y en a deux qui sont à la tête de ce mouvement-là, je suis très heureux de voir qu'il y a des policiers avec une bonne conscience qui sont allés voir le chef puis qui ont dit « Hey, ça n'a pas d'allure ce qui se passe là. Faut que tu enquêtes. » Parce que nous, on est à l'encontre de ça. Tu es le responsable de la loi et l'ordre. Tu te dois d'avoir un jugement impartial dans 100% des
Absolument.
Cas.
Absolument. Puis ça, là-dessus, même comme tu dis, Jeff, même s'il y a des auditeurs auditrices qui sont pas d'accord avec nous, tu sais, moi, j'ai grandi à Limoilou.
Ouais.
Puis je me souviens être jeune, être au secondaire, puis on traîne dans des parcs après l'école. Puis c'est vrai, là, ce que je te raconte là. Tu sais, on avait des amis qui venaient de partout. On avait, tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup l'arrivée des Kosovars.
Oui.
Ici, au Québec, à l'âge que j'avais. On avait des amis rwandais aussi. Si on était une gang de Blancs dans un parc, à traîner au parc Ferland,
ça allait bien.
Le char de police passait, ralentissait un peu, whoop, puis continuait son chemin. Mais quand les policiers s'arrêtaient, mettaient les cerises, puis débarquaient de l'auto pour venir nous jaser, la plupart du temps, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui n'était pas blanc avec nous dans la gang.
Exactement.
À ce moment-là.
Non, non, non. Être ostratisé de cette façon-là, on ne sait pas c'est quoi nous.
Non, c'est ça. Puis ça fait longtemps, ça, que ça existe. Puis tu sais, les caméras corporelles, évidemment, dans ce cas-ci, on parle quand même de Montréal, mais tu sais, partout, même à Québec aussi.
Ben oui.
Tu sais, à Québec aussi, là, on est une région qui est de plus en plus multiethnique. Puis si ce genre de comportement-là se produit pour vrai, c'est inacceptable. Tu sais, tu peux pas ne pas avoir de bonnes raisons d'interpeller ou d'arrêter un individu. Puis j'utilise le terme individu ici parce que c'est ce que nous sommes tous, des humains, des individus.
Exactement.
Ce que j'ai aimé beaucoup là, dans la sortie du chef de police du côté de Montréal, là, M. Fadi Dagan, c'est quand il a dit « L'annonce de vendredi est assez particulière parce qu'en général, je ne l'aurais pas fait, j'aurais laissé l'enquêteur poursuivre son travail. Mais j'ai décidé de sortir tout de suite parce que c'est trop grave ce qui se passe en ce moment. » Puis c'est le côté... Je ne veux pas aller trop loin dans ce que je vais dire là, parce que je veux faire attention pour ne pas me mettre les pieds d'un plat, moi non plus. Mais comme tu disais, il y a une espèce de... Il y avait quelque chose qui s'organisait là, au sein de ces policiers-là, là, avec l'espèce de côté de collection, de collectionner les rastas, puis de... Tu sais... Avoir une espèce de concours à l'interne
Exactement.
Alors que t'es policier à savoir c'est qui va en avoir le plus. Puis on est où, là? On joue, là?
Exactement. Il a dit qu'à l'endroit où il était rendu dans l'enquête, il ne pouvait plus permettre à ces deux policiers-là d'être dans la communauté parce que sinon, le lien de confiance allait être brisé totalement. Donc, il a dit que les 14 autres étaient encore, justement, sous enquête. Puis que normalement, il n'aurait pas sorti. Mais il a fait le bon geste en les retirant immédiatement de la communauté. Puis là, évidemment, bien, c'est tellement gros, ça implique 16 policiers qui n'avaient pas le choix de faire une conférence de presse.
Puis il a bien fait de le faire aussi parce que ça va dans les deux sens. Puis là où je m'explique, c'est que le visage puis la perception qu'on a des policiers dans les dernières années est en train de changer aussi. J'en ai des amis qui sont dans la police, autant dans le service de police de Ville de Québec que du côté de la SQ. Ce sont des bonnes personnes. C'est des gars et des filles qui sont droits et droites, qui font ça pour les bonnes raisons. Puis à cause d'un petit groupe comme ça, là, on va retomber dans le préjugé aussi envers envers la vision qu'on a de nos policiers et policières. Faut faire attention, là. Les policiers puis les policières, dans les dernières années, ici dans la ville de Québec, font énormément de travail social.
Ah, vraiment?
Okay? À intervenir auprès des gens sans être en mode arrestation tout le temps, puis en mode brutal, puis arriver pour faire comme hey, « c'est moi la police, c'est moi qui... » Ça aussi, ça a énormément changé, oui. Mais parce qu'il y a des individus encore au sein des services de police qui agissent comme ça, bien, c'est sûr que la balance repart de l'autre bord vraiment rapidement. Puis là, mais la perception des citoyens et des citoyennes par rapport au groupe de police fait en sorte que, ah ben on sait bien, tu sais, c'est tous des pareils, puis ouais. Là, ils font ça, puis ils vont là, puis c'est des trappes à tickets, puis ils vont les arrêter, puis ce n'est pas ça non plus. Ça fait mal paraître, les policiers puis les policières. Il y en a une gang qui doit être fâchée aujourd'hui.
Malheureusement, ton groupe, c'est toujours le maillon le plus faible qui le décrit dans le public, malheureusement.
C'est ce qui fait le plus jaser.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut que, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, voilà la manifestation à Montréal ce soir, il faut que ça se passe de façon pacifique. On n'y gagne rien avec la violence, que ce soit du côté du corps policier ou de la société, on ne gagne rien avec la violence. On gagne au dialogue. Un auditeur nous écrit « La caméra corporelle aurait dû être instaurée il y a plus de 10 ans. » Je suis tellement d'accord. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore ça au Québec. Ça viendrait tellement dédramatiser des cas. Parce que là, évidemment, tu sais, aussi sur les médias sociaux, je voyais beaucoup de vidéos sortir de violences policières, mais en même temps, des fois, c'est des courts vidéos. On n'a pas l'ensemble. Donc, c'est pour ça que la caméra corporelle permettrait justement de voir ça du début à la fin. Mais très content que le chef de police du SPVM fasse son travail. Le racisme n'a pas sa place dans notre société, mais pas du tout. Il faut vivre ensemble collectivement, puis il faut trouver des alternatives justement pour bien collaborer dans notre belle société, pour faire plaisir à Antonine Iaccarini, dans notre belle nation québécoise. On fait une courte pause. Nathan, tu nous le disais tout à l'heure. Entente entre l'Iran et les États-Unis.
Ouais. Bon,
c'est une vraie entente? C'est une entente boboche pour les États-Unis? L'Iran, tu gagnes du pouvoir? L'UFC est à la Maison-Blanche? Le G7 commence aujourd'hui en France? Bref, pas mal de choses à jaser en politique américaine et internationale. C'est pour ça qu'on a fait venir Luc Laliberté qui va nous jaser dans quelques instants à l'émission On en jase. On en jase.